Dans quelques minutes va débuter la radio d'État. Radio Campus va finir. Avant d'ouvrir cette porte à cette nouvelle radio, j'aimerais, pour la dernière fois, écouter l'indicatif Radio Campus Clermont-Ferrand, si vous le voulez bien.
Vous écoutez Radio Campus 93.3.
C'est déjà le silence.
Dix secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Dans la cabine du studio, l'équipe est au complet. On ne le dit pas, mais on sent que dans l'histoire de la radio française, ce moment est historique.
Il y a quelque chose dans l'air, une sorte de complicité entre les oiseaux et les choses. Un je ne sais quoi qui vous incite au rêve. Plus au travail, un je ne sais quoi qui vous fait voir la vie en un peu plus rose.
Des cris, des slogans qui font désormais partie du paysage sonore des villes françaises en cet hiver 2023, bruissant de la colère déclenchée par l'iniquité de la réforme des retraites. Une réforme qui, on le sait, pénalise encore une fois les plus précaires, les plus exposés aux emplois pénibles et avant tout les femmes. Parmi elles, il se trouve pourtant des gens que vous n'avez pas croisés dans les cortèges parce qu'elles n'ont tout simplement pas le droit de grève. Il s'agit des travailleurs et travailleuses des ESAT, les bien mal nommés établissements et services d'aide par le travail, où des femmes et des hommes trient des vices, font du conditionnement ou de la reprographie et ne sont pas justiciables du code du travail, n'ayant ni droit au SMIC, ni de faire grève donc, ni de se syndiquer. Avec des cotisations sur des si bas revenus, beaucoup se retrouvent avec le minimum vieillesse lorsqu'elles atteignent l'âge de la retraite. Déjà, dans les années 70, des activistes handicapés dénonçaient ce qu'ils appelaient des usines-prisons, mais sans grand écho dans le mouvement ouvrier, parce que, à l'époque, militants et handicapés, ça cadrait mal avec l'image viriliste des luttes. Il fallait que les ouvriers fassent l'épreuve physique de leur corps. Si on y réfléchit, aujourd'hui encore, tout un vocabulaire associe le militantisme au fait d'être valide. Être debout contre le gouvernement, se lever, voyez, nuit debout, radio debout, etc. Depuis quelques années, des activistes handicapés et anti-validistes dénoncent avec force le système des ESAT, relayant la condamnation de l'ONU qui somme la France de fermer tous ses établissements. Mais il faut bien le dire, ces protestations trouvent assez peu d'écho à gauche. Peut-être parce que les ouvrières et les ouvriers des ESAT sont toujours considérés non comme des camarades dans les luttes, mais comme des handicapés. Une catégorie hégémonique qui, par la force du validisme, fait passer la pire exploitation pour de l'action sociale, la ségrégation pour de la protection et la domination politique pour une fatalité biologique. Alors, lors de la prochaine manif, si vous vous demandez où sont les petites mains qui emballent des ramettes de papier, qui taillent des pour que des entreprises clientes puissent se prévaloir d'être inclusives et solidaires tout en faisant du dumping social, vous pouvez lire le texte de la militante Lily Guiguenot qui a paru dans Contretemps, le faire savoir autour de vous, devenir une ou un allié. À bas les ESAT, à bas les assos gestionnaires, vive la retraite, vive l'amour, c'est la radio d'État.
Mais non, tout ça. tout ça, c'est chez moi.
Tout ça?
Oui. Tout ça, c'est chez moi. Tout ça. Voilà. Ils ont fait tout ça chez ça... moi.
Ah oui, d'accord.
Oui, sur ma propriété.
La radio d'État, chez toi.
C'est pour 19 bientôt, degrés. Hein.
Oui, mais
demain, après-demain.
Nous serons proches du 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie.
Alors, on démarre de nouveau cette chronique avec une superbe citation de Bruno Le Maire, qui est à nouveau incroyable, puisqu'au moment où le pays traverse une crise énergétique extrêmement profonde. Le programme politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que les gens portent des pulls roulés. Et la question qui se pose, c'est comment on en est arrivé à un degré de nullité aussi absolu. Et pour répondre à cette question, en fait, il faut repartir de 1929, la grande crise économique de 1929, qui acte de manière claire et définitive de l'échec patent du libéralisme. Et il y a un petit groupe de penseurs qui prend acte de cet échec, mais qui est animé par une foi absolue dans les mythes fondateurs du libéralisme, et qui va, donc, comme tous les fanatiques, expliquer que si le libéralisme n'a pas fonctionné, c'est qu'on n'a pas appliqué de manière suffisamment extrême ses dogmes idéologiques. Et donc ce groupe de penseurs va travailler pour maintenir en vie les mythes du libéralisme et pour essayer de dépasser les points d'achoppement. Alors ils vont connaître une très longue traversée du désert, mais ceux qu'on appelle donc les néolibéraux, puisqu'ils veulent fonder un nouveau libéralisme, vont finir par accéder à des positions de pouvoir dans la deuxième moitié des années 70, avec notamment Reagan aux États-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne. Et leur hégémonie va commencer dans les années 80 avec ce qu'on appelle la mondialisation, qui est en réalité l'application de l'idéologie néolibérale à l'ensemble de la planète. Il faut bien comprendre que ces néolibéraux, ils vont reprendre certes les dogmes fondamentaux du libéralisme, mais ils vont évoluer sur un point de méthode extrêmement important, puisque dans l'idéologie libérale traditionnelle, l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, et qu'au contraire, les néolibéraux vont mettre en avant la nécessité d'un interventionnisme très fort de l'État sur deux axes fondamentaux. Le premier de ces axes, c'est le rapport entre le capital et le travail, avec deux points essentiels, la lutte contre le travail, et donc notamment la lutte contre les syndicats, qui va être extrêmement forte, là encore, chez Reagan et chez Thatcher. Et ce rapport entre capital et travail, ça va être aussi déconstruire tous les droits du travail, toute la protection des travailleurs et des travailleuses, et sanctifier la liberté totale du capital. Donc ça, c'est le premier axe, d'intervention de l'État.
There is no such thing as public money. That is only taxpayers' money.
Le deuxième, ça va être de mettre en œuvre des marchés concurrentiels là où ils ne sont pas possibles. Ça, c'est ce que la théorie économique classique appelle très clairement des monopoles naturels. C'est-à-dire que si on a une ligne de chemin de fer ou une ligne à haute tension, on ne va pas construire à côté une deuxième ligne de chemin de fer ou une deuxième ligne à haute tension pour la concurrencer. Et donc, ce sont des infrastructures qui rendent le marché concurrentiel impossible et absurde. Et les néolibéraux vont aller contre ça, ils vont dire non, on va quand même bricoler des marchés concurrentiels, alors on va pas construire de deuxième ligne à haute tension, mais on va monter des usines à gaz complètement absurdes, où on va mettre en concurrence des monopoles naturels. Et c'est le fameux marché de l'énergie européen, où on arrive à des aberrations absolues. Par exemple, on va obliger EDF à vendre de l'électricité en dessous du prix du marché à ses concurrents, pour que ses concurrents soient compétitifs. Évidemment, c'est complètement abracadabrant, et les personnes qui ont gardé une certaine rationalité, une certaine logique, annoncent que ces usines à gaz vont pas fonctionner du tout, et que dès qu'il va y avoir une crise, ça va se casser la figure. Et on est dans cette situation-là, c'est-à-dire que la crise est là, et ça se casse la figure. Et ça nous renvoie à nouveau à cette citation de Bruno Le Maire, qui est très révélatrice à la fois de l'impudence et de la force du néolibéralisme. L'impudence parce que c'est quand même incroyable de dire à des gens qui vont souffrir du froid et qui vont pas arriver à se chauffer, qui n'arriveront pas à 19 degrés, eux, qu'il va falloir qu'ils mettent des pulls. Et la force parce que Bruno Le Maire sait très bien que le néolibéralisme profite des crises qui prouvent son inanité pour renforcer sa logique. Que nous annonce Bruno Le Maire ? Il dit, bah voilà, je me fais du souci pour les finances de l'État, c'est la fameuse dette publique, mais néanmoins, il débourse 8 milliards de baisses d'impôts sur la production. Et comment il le compense ? Bah, il le dit clairement, il dit, bah voilà, le projet sur les retraites, c'est 8 milliards de plus dans les caisses de l'État. Et donc Bruno Le Maire revendique d'être un Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire qu'il va prendre aux pauvres, aux travailleurs et aux travailleuses précaires, pour donner aux riches en allégeant les impôts de production.
Cette réforme de retraite est indispensable pour notre pays. Elle est indispensable pour financer notre modèle de protection sociale. Et elle est indispensable pour...
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Campus 93.3 dans la radio d'État avec ce soir Lise à la technique. Bonsoir Lise.
Bonsoir.
Aurélie.
Coucou.
Thierry.
Salut.
Sur le plateau. Alors, vous venez d'entendre la chronique à la source, réalisée par Jordi et moi-même, et donc qu'on retrouvera le mois prochain pour voilà, la suite de cette histoire du libéralisme et du néolibéralisme. Et alors, pour poursuivre sur la thématique de la justice sociale, Thierry, Aurélie, vous avez enquêté sur la CAF.
Oui, enquêté, tout à fait, Thierry. Hein, tout à fait.
N'ayons pas peur des mots.
On a enquêté, n'ayons pas peur des mots. On va vous parler de ça, mais d'abord une petite introduction.
Mais la solidarité, je veux le dire parce que c'est mon devoir. Il ne faut pas l'abîmer. L'abîmer avec la fraude, l'abîmer avec la tricherie, l'abîmer avec les abus.
Et pour la sécurité sociale, qui est notre bien le plus précieux, qui doit en terminer avec les excès, nous les connaissons, et les abus, parce qu'ils mettent en cause l'idée même de la solidarité.
Dans la République, il n'y a pas de place pour les tricheurs, pour les fraudeurs et pour les profiteurs.
Quelle est l'ampleur réelle de la fraude aux prestations sociales en France ?
Il y a un sujet qui insupporte les Français aujourd'hui, c'est la fraude sociale. Alors, c'est pas très compliqué, mieux protéger l'argent des Français.
Des bandes organisées qui vont évidemment essayer d'utiliser toutes les failles du système.
Pour 49% des Français, la priorité est de la lutte contre la fraude aux finances publiques doit être la lutte contre la fraude aux prestations sociales, notamment le RSA.
Vous êtes bien sur la radio d'État et oui, nous avons un gros problème, les amis. La République est menacée par de dangereux fraudeurs qui feraient de fausses déclarations pour toucher 497,50 € par mois. Putain. Mais quelle débauche !
Honteux.
C'est honteux, alors que d'honnêtes citoyens bossent dur pour payer leurs impôts. Ah, donc voilà, ça c'est un discours récurrent qui revient régulièrement. Le scandale de la fraude aux prestations sociales avec des chiffres qui fluctuent du simple au double au quadruple selon les médias, allons-y. Alors, c'est un discours qui a vraiment pris une grande place dans le débat public depuis en fait le milieu des années 90. Au début, c'est Juppé qui avait commandé un rapport sur le sujet. Alors, un discours porté par la droite, ça leur permettait de passer pour de bons pères de famille qui sont là pour gérer le budget de l'État d'une main de fer droit dans leurs bottes. Et oui, c'est un discours qui est quand même bien commode pour nourrir sans arrêt, pour alimenter sans arrêt l'image d'une société qui serait divisée en deux catégories. Ceux qui bossent, qui participent à l'effort collectif en payant des impôts, ceux qui se lèvent tôt. Et puis, il y aurait les feignants, ceux et celles qui ne veulent pas bosser, qui profitent du système. Alors, sociologiquement parlant, ça ne correspond à rien. Mais par contre, ça permet de continuer à faire croire que la pauvreté est une question de choix individuel. Le pauvre est responsable de sa situation. Parce que si tu cherches, il y en a du boulot. Mais en plus, il est suspecté de tricher. Alors que dans le même temps, ça fait des décennies qu'on vit du chômage de masse, une précarisation de l'emploi toujours plus féroce, et puis plus récemment, une exploitation de toute une partie de la population ubérisée. Alors ce discours, d'abord politique, puis médiatique, ce discours récurrent sur les fraudes aux allocations familiales, au chômage, à la sécu, a en fait influencé les politiques publiques pour mettre en place un vaste système de contrôle des pauvres et une organisation administrative de plus en plus rigide, accompagnée par la numérisation du système. Alors on pourrait se dire, c'est normal de contrôler l'utilisation de l'argent public. Quelque part, c'est l'argent commun et il faut qu'on sache où il va. Moi, je suis d'accord, hein. Alors là, je suis hyper d'accord pour qu'on contrôle l'argent public. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'à cet endroit-là qu'on contrôle autant et de manière aussi intrusive. Donc, c'est aux précaires qu'on va demander le plus de démarches administratives. Potentiellement aussi à toutes les personnes qui ont des difficultés avec la langue ou plein d'autres difficultés liées à une vie dans la misère, par exemple. Et c'est aussi sur elles et eux qu'on récolte le plus d'informations personnelles, avec des milliers de données collectées. Alors, avec Thierry, on a voulu s'intéresser plus particulièrement à la CAF, qui gère plusieurs prestations, donc le RSA. Le RSA, je ne sais plus ce que le sigle veut dire.
Un revenu de solidarité active. Active. Voilà, attention, c'est ça, active.
La prime d'activité, les allocations familiales, l'allocation logement et puis plein d'autres aides. Donc c'est environ 13 millions d'allocataires de la caisse d'allocations familiales. Alors on voulait vous parler de deux choses. D'un côté, il y a la difficulté d'accéder à ses droits, c'est-à-dire de toucher les aides qu'on devrait toucher. Par exemple, en 2022, on estime qu'un tiers des personnes qui auraient droit au RSA ne le touchent pas. Donc, dans l'administration, on appelle ça un non-recours. Et en fait, c'est ça qui devrait être le sujet scandaleux. Donc, l'objectif de la CAF, ça devrait être que tout le monde perçoive les aides auxquelles il et elle ont droit. Eh bien, en fait, non. Dans la nouvelle convention... Enfin, dans la convention là, actuelle d'objectifs de la CNAF, donc, qui est l'organisme national qui gère les CAF, il y a un objectif chiffré à atteindre, mais cet objectif, il concerne les fraudes aux prestations. Ce qui voudrait dire que l'administration n'a pas pour objectif principal de redistribuer les aides, mais de chercher à récupérer de l'argent sur les soi-disant fraudes. Et puis, dans le même temps, en complexifiant en fait, l'accès aux droits, de faire finalement des économies sur les droits non perçus. Donc la CAF cherche à faire des économies sur le dos des pauvres. Voilà, concrètement, c'est ça. Alors, des dysfonctionnements à la CAF, il y en a beaucoup, mais on dirait que ça s'est accéléré ces derniers temps. Il y a eu pas mal d'articles d'ailleurs à ce sujet. Alors, on vous propose d'écouter trois témoignages. Celui d'une jeune retraitée qui a travaillé 20 ans à la CAF jusqu'en 2018 et qui nous raconte ce qu'elle a observé de l'intérieur. Une assistante sociale qui, elle, accompagne dans leur démarche des personnes sans domicile dans la région parisienne. Et puis, une allocataire qui a bien voulu nous parler de son rapport avec la CAF.
Non. Ouais, bah, le quotidien, c'était traiter les dossiers, les demandes de prestations. Donc, on travaillait sur les courriers des allocataires. À l'époque, il n'y avait que le courrier. Ensuite, après, il y a eu les mails. Après, il y a eu tout un service téléphonique qui a été installé. À l'époque, c'était assez, quand même assez rapide, quoi. S'il y avait un problème et que les gens appelaient, et on le traitait dans les 72 heures, quoi. On était assez rapide quand même. À une époque, on était même les mieux placés en France au niveau rapidité. Hein. Donc, ça n'a pas duré. Au début des années 2000, je dirais, entre 2000 et 2005, je pense. On a eu une période où on était vraiment bien placés. on avait ce qu'il fallait, les outils pour gérer et tout, ça fonctionnait bien. Et puis après, il y a eu des modifications dans les prestations. Ça redescendait de la CNAF. On avait la formation qu'au bout de 6 mois, par exemple. Et là, ça pataugeait beaucoup. Donc, on a commencé à prendre du retard. Et puis, on avait du mal à récupérer. Enfin, bref. Et un dossier en retard, on savait pertinemment que c'était des gens derrière, c'est de l'humain. Donc, on savait pertinemment qu'il y avait des gens derrière qui attendaient leur paiement et que... Ben, il fallait un petit peu se bouger. Donc, moi, j'aimais bien prendre les dossiers qui étaient un peu en retard. Et puis, je les épluchais. Puis, j'essayais de les traiter dans le mieux possible. J'appelais les gens. On avait beaucoup de... À l'époque, tout de suite après ma formation, là, on avait beaucoup de possibilités d'initiative.
La numérisation de la CAF, je l'ai vécue, puisque quand j'ai commencé, il n'y avait pas de compte personnel à la CAF et les personnes se déplaçaient en guichet pour toutes les démarches. Pour nous, les assistantes sociales, à l'époque, c'était déjà la galère pour se mettre en lien avec la CAF et qu'il y avait une impossibilité de joindre la CAF. Enfin, c'était très long, ça prenait beaucoup de temps. Et on avait peu de partenariats. Mais par contre, à l'époque, voilà, quand il y avait un souci sur un dossier CAF, on disait aux gens de se présenter là-bas. On savait qu'ils allaient attendre beaucoup, mais il y avait un accueil physique quotidien, tous les jours, et ils étaient reçus, quoi.
Ben, ça s'est dégradé. Après, il y a eu des directives de la CNAF, il y a eu de nouvelles équipes qui ont été mises en place, il y a eu... on a déstructuré l'accueil, par exemple. À un moment, fallait plus recevoir les gens en direct, fallait les recevoir en différé. Donc, ça nous mettait des bâtons dans les roues parce qu'on n'était plus tout à fait aussi bien à l'aise pour traiter les dossiers, quoi. Et on avait moins d'initiative. On laissait le retard dans les dossiers parce que les gens, ils appelaient. Donc, il y avait une autre personne qui prenait leur coup de fil après le temps qu'elle transmette et tout ça. Donc, on perdait facilement 4-5 jours. Plus après tous les délais de traitement, s'il y avait 15 jours de délai de traitement, le dossier restait en panne. Et la personne qui le reprenait derrière, elle avait déjà, fallait qu'elle remonte sur 12 lignes, 13 lignes pour voir quel document était arrivé. Elle redemandait des documents qui étaient déjà présents dans le dossier parce qu'elle ne les voyait pas. Enfin, voilà. Puis après, on a sous-traité le courrier. Il y a eu d'autres courriers qui sont... Les courriers n'étaient plus traités en direct. C'était une société qui les... Alors, tous ces gens-là, il a fallu les former. Et c'était des emplois en moins pour la CAF. Enfin, tout un tas de petites choses comme ça qui étaient censées faciliter le travail et qui, en fait, le facilitaient pas du tout, quoi.
On était fait nos demandes à la CAF. On était la première fois, j'avais reçu l'Orecia parce que mon mari n'a pas travaillé. Après, une fois que mon mari a travaillé, j'avais la prime d'activité. Après, ça arrivait les problèmes parce que chaque fois qu'on était allé à la CAF pour déposer des papiers ou qu'est-ce qu'il faut, une fois ils m'ont sorti les infos de mon dossier et j'ai compris pas pourquoi. Donc après, quand j'étais allé, ils n'ont pas donné beaucoup d'explications. Ils m'ont dit ça a été un. Ils ont fait une erreur et ils m'ont sorti les infos de mon dossier. Donc, le mois d'août, je n'ai pas touché les sous. Après, chaque fois, quand on a des problèmes, maintenant, la situation, ça a tout changé. Le CAF, ça a tout changé. Ce n'est pas comme avant. Parce que c'est tout protocole qui s'est changé. Toutes les personnes qui travaillent là-bas, ils ne sont plus. C'est de nouvelles. Et quand tu as un problème de dossier, tu vas à la CAF pour t'expliquer pourquoi je n'ai pas ça, pourquoi ils m'ont coupé ça, pourquoi ça. Quand tu vas à la CAF pour chercher des explications, ils entrent dans le dossier, ils ne peuvent pas t'expliquer parce qu'ils ne voient pas. Donc, il n'y a pas d'explication dans ton dossier. Même dans notre courrier, quand on est sur Internet, il n'y a pas d'explication. Juste, tu vois qu'il s'est coupé, tu ne touches pas ça, tu ne touches pas ça. Là, tu ne vois pas l'explication comme avant. Avant, chaque fois qu'on changeait quelque chose, tu avais un courrier. Donc, on t'explique, ils sont coupés pour ça, je ne sais pas quoi. Là, ils ne t'expliquent rien. Donc, pour ça, il faut que tu prennes un rendez-vous avec un technicien pour t'expliquer. Et quand tu vas au technicien, ils te disent « Ah oui, c'est par rapport à la ressource que tu as vue l'année dernière. »
Et on demande donc de fournir tous les avis d'impôt, mais des fois sur N-2, hein, les avis d'impôt, toutes les quittances de loyer pour être sûr que vous êtes toujours là. Par exemple, tous les bulletins de salaire pour savoir si vous avez toujours travaillé. Tous les justificatifs pour les enfants, certificat de scolarité des enfants, mais ça fait des dossiers de 30 pages.
Là, il calcule l'appel tous les mois. Deux fois, il t'y donne, deux fois, il t'y passe. Par exemple, pour moi, ils m'ont donné 130 euros. Maintenant, ils m'ont coupé. Maintenant, ils me donnent encore 170. Et 7 mois, je ne sais pas. Donc, ça calcule encore. On n'est pas sûr de rien. On ne connaît pas notre droit, c'est ça.
Et vous êtes toujours sur la radio d'État, donc on vient d'entendre plusieurs témoignages sur la CAF, Caisse d'allocation familiale. Alors, il y a un sujet un peu en filigrane de tout ça, c'est la numérisation à marche forcée des services publics. Alors, à marche forcée parce qu'on ne laisse plus la possibilité de faire autrement. Alors, ok, faire les démarches par Internet, c'est plus pratique pour un certain nombre de personnes, mais on laisse aussi beaucoup de gens de côté. En fait, ce serait plus de 6 millions de personnes qui n'auraient pas un accès facile à Internet et plus de 20% de la population qui ne serait pas à l'aise avec l'outil. Donc, voilà, c'est pas anecdotique. Alors, il y a aussi donc, y a les gens qui ne maîtrisent pas l'outil et aussi les gens qui sont donc déconnectés, sans accès à Internet, hein, dans les zones blanches. Des personnes qui ne s'y sont pas mis ou qui refusent de s'y mettre. Et puis des gens qui ne sont pas équipés. Parce qu'en fait, on demande aux personnes d'être équipées d'un smartphone ou d'un ordinateur et de prendre un abonnement dans une boîte privée, tout ça pour accéder à un service public.
Sans parler des gens qui ont des déficiences visuelles.
Oui, oui, oui.
Et pour qui les administrations ne rendent pas les sites accessibles.
Évidemment, donc ça représente en fait beaucoup de personnes hein, pour qui l'accès il est compliqué. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on ne donne pas la possibilité de faire autrement et qu'il y a de moins en moins, en fait il n'y a quasiment pas d'ordinateurs aussi qui sont mis à disposition, mais en milieu rural, alors j'en parle même pas, hein, il faut faire des kilomètres. Et puis s'il y en a, eh ben, on va se retrouver donc, avec des malheureux, malheureuses services civiques qui doivent tant bien que mal être là pour accueillir les personnes. Donc pour toutes et toutes les exclus du numérique, ça devient carrément ingérable. D'ailleurs, il paraît que les non-recours, c'est aussi des personnes qui se découragent.
Bonjour et bienvenue à la caisse d'allocation familiale. Composez le numéro de votre département sur deux chiffres. Pour la Corse, composez le 20. Pour les DOM, composez le 97. Informations sur le paiement de vos prestations, tapez 0. Si vous souhaitez avoir des informations personnalisées sur votre compte, tapez 1. Si vous souhaitez obtenir des informations générales ou si vous êtes non allocataire, professionnel, élu ou bailleur, tapez 2. Tapez 1 pour avoir des informations sur la prime de fin d'année, tapez 2.
Pour le paiement de la prime exceptionnelle de solidarité,
tapez 3. Pour revenir au menu principal, tapez étoile. Veuillez saisir votre nom.
accessible par téléphone est difficile et le temps d'attente conséquent. Nous vous conseillons d'utiliser en priorité le CAF.fr et d'adresser vos demandes par courriel. Nos équipes sont mobilisées et nous mettons tout en œuvre pour poursuivre nos missions.
Dans sa convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF, cette dernière déclarait le nouveau modèle de production de la branche famille, c'est à la fois plus de simplicité pour les allocataires grâce aux téléservices et plus d'efficacité pour les CAF grâce aux traitements automatisés et aux échanges de données avec les partenaires. Alors, je vous traduis ce petit message de la CAF, c'est qu'il s'agit en fait d'un algorithme. Un programme qui va déterminer, grâce aux infos multiples donc de ses partenaires, si vous êtes digne ou pas de confiance. Pour cela, ce programme va vous attribuer un score représentant le risque qu'on vous aide indûment. Parce que les aides, ça se mérite.
Bien sûr, ça se mérite. Mais alors Thierry, comment est attribuée cette note ?
C'est une très bonne question, Lise.
Je t'en prie.
Eh bien, pour éviter le carton rouge, c'est très facile. L'algorithme va cibler certaines situations, en particulier des situations jugées à risque. Donc, il vous suffit, par exemple, d'éviter d'avoir des revenus faibles ou d'être au chômage et de ne pas avoir de situation stable.
Facile.
Voilà. D'être un parent isolé. Alors, petite parenthèse, on me signale que 80% des parents isolés sont des mères isolées.
Ah, elles le font exprès.
Ouais, hashtag not all papa, s'il vous plaît, j'en connais un, il est très bien. Ensuite, il faut éviter de dédier une part trop importante de votre revenu pour vous loger, d'accord ? Et éviter d'avoir de nombreux contacts avec la CAF. Voilà, donc il y a d'autres paramètres, comme le lieu de résidence ou le type de logement, si vous êtes en HLM par exemple, ou le mode de contact avec la CAF, si vous utilisez le téléphone ou les mails, voilà, on ne vous met pas dans les mêmes cases. J'allais oublier le fait d'être né en dehors de l'Union européenne, bien sûr, qui sont... Enfin, tout ça, c'est utilisé et on ne sait pas trop comment exactement. C'est-à-dire que quand la Quadrature du Net... donc c'est un journal, on peut dire que c'est des geeks gauchistes, qui a demandé à la CAF de leur fournir le code source de l'algorithme. Alors ils ont reçu le code, mais avec la quasi-totalité des noms de variables masquées. Parce que selon la CAF, si ces dernières étaient communiquées précisément, cela pourrait, je cite, « donner des indications aux fraudeurs pour tromper l'algorithme ». Et oui, par exemple, en arrêtant d'être une mère isolée, pas con. Donc en tout et pour tout, ça fait plus de 1000 données par personne qui sont collectées pour 13 millions de foyers grâce à l'interconnexion de dizaines de fichiers administratifs. C'est les impôts, éducation, police, justice. Donc tout ça, c'est Vincent Dubois qui nous le dit dans son bouquin qui s'appelle « Contrôler les assistés » aux éditions Raison d'agir. Donc les conséquences de tout ça, c'est un surcontrôle massif des pauvres. Des personnes pauvres, étrangères, et des femmes élevant seules un enfant, ou plusieurs. Petite cerise sur le gâteau, je me permets de la part du directeur de la CAF, qui, lui, je pense, n'a pas trop de miroir chez lui, il déclarait en juin 2014 que cet outil faisait partie, je cite, « d'une politique constante et volontariste de modernisation des outils de lutte contre les fraudeurs et les escrocs ».
On parle même de biométrie, j'ai entendu.
On n'arrête pas le progrès. Oui, alors, c'est bien joli tout ça, mais en fait, l'algorithme, désolé, Jojo, il ne détecte pas les fraudes. Une fraude, c'est intentionnel. Non, cette horreur détecte les indus, les trop perçus, au sens large, dont la très grande majorité résulte d'erreurs déclaratives involontaires. Ainsi, une directrice du département maîtrise des risques, lutte contre la fraude, déclarait en 2019 que 80% de nos indus sont liés à des erreurs sur les ressources et les situations professionnelles, majoritairement les ressources. Alors bien sûr, il y a des fraudes. Vincent Dubois appelle ça la fraude de survie. Quelques fausses déclarations pour pas être trop dans la merde. On pourrait appeler ça de l'optimisation sociale. Dans l'histoire quand même, il n'y a pas grand monde qui s'enrichit. C'est surtout en fait qu'on sait très bien que le risque d'erreur est particulièrement élevé pour les personnes en situation de précarité, à qui on demande beaucoup plus de justificatifs, augmentant mathématiquement le risque d'erreur. Bah ouais, Sherlock. Ton mari, t'a pas versé la pension le mois dernier. Tes revenus, ils ont encore changé de 50 balles ce mois-ci. Tes parents t'ont filé des ronds à Noël et t'as quand même du retard sur tes factures EDF. Bon, bah tout ça, c'est un peu trop louche. On va lancer un petit contrôle automatique. Alors, c'est moche, hein, mais c'est rentable. Les erreurs étant plus nombreuses et plus faciles à détecter que des situations de fraude, ben, ça permet de maximiser les montants récupérés auprès des allocataires. Alors, pour conclure cette joyeuse chronique, je vais faire une petite mise en perspective toutefois, hein, parce que selon la Cour des comptes, le montant des fraudes, c'est 309 millions d'euros en 2021, soit rapporté à l'ensemble des prestations un peu moins de 1%. Toujours selon la Cour des comptes, la fraude aux cotisations sociales des employeurs est estimée entre 7 et 25 milliards d'euros, hein, il y a quelques zéros de plus, et la fraude fiscale qui échappe aux recettes de l'État, quant à elle, est estimée aux alentours de 80 milliards d'euros.
Donc moi, je suis assistante sociale dans une structure parisienne qui accueille les sans domicile fixe, hommes seuls de plus de 25 ans. Ouais. Alors moi, du coup, le public que je reçois, c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui sont réfugiées statutaires et qui parlent souvent très peu, enfin qui maîtrisent très peu la langue française. Alors certains ont tous, enfin en fait, ils ont tous des smartphones et ils savent gérer c'est certaines ça. Choses sur leur smartphone. Ouais. Mais par contre, une prise de rendez-vous sur le site de la CAF, si t'es pas accompagné, c'est compliqué, quoi. Quand il y a des suspensions de droits, ce qui est assez fréquent, ça peut être suite à un contrôle ou alors sur des... parce que justement, c'est un public qui ne parle pas très bien français et qui a du mal à faire des déclarations sur leur compte personnel, qui font des erreurs. Et donc, une multitude d'erreurs, enfin, une multitude de 2-3 erreurs, ça va déclencher un contrôle. Du coup, il y a suspension des droits. Et en fait, moi, si je vais sur leur compte en ligne, parce qu'on l'a créé ensemble et qu'on a cet accès-là, je ne vais pas pouvoir comprendre les raisons de la suspension. Parce qu'en fait, sur le compte personnel, il n'y a aucun motif, ce n'est pas explicite. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas résoudre le problème. Il faut que la personne puisse se déplacer à la CAF et avoir un rendez-vous pour comprendre ce qui se passe. Moi, je n'ai jamais vraiment compris les raisons d'un contrôle. Ce que j'ai pu... présumer, c'est qu'effectivement, quand il y a des erreurs de déclaration, quand les personnes travaillent et ont des revenus qui changent trop souvent, il y a plein de raisons qui font qu'ils peuvent avoir un contrôle. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont jamais prévenues de ce contrôle. Ou en tout cas, elles peuvent l'être, mais pas forcément au début de la suspension des droits. C'est-à-dire que ça commence par on vous coupe le RSA ou la prime d'activité. Ça peut durer un mois, deux mois. La personne, des fois, elle met du temps à prendre rendez-vous avec les services sociaux pour comprendre ce qui se passe, notamment parce que nous-mêmes, on est dysfonctionnants et qu'on a du mal à leur proposer des rendez-vous rapides. Ce qui fait qu'en fait, des fois, le courrier qui leur notifie quand ils ont un courrier, hein, ce qui n'est pas systématique, ça, il peut arriver 2-3 mois après qu'il y ait eu l'origine de la suspension, sans avoir aucune information sur ce qui se passe. Mais typiquement, les personnes qui sont mariées, mais dont l'épouse n'est pas sur le territoire, qui ne parlent pas très bien français, qui ne maîtrisent pas vraiment le numérique, les petites erreurs, elles sont nombreuses en fait. Ils ne cochent pas la bonne case, ils mettent, au lieu de mettre leur salaire, ils mettent le chômage touché dans cette année-là. Enfin, il suffit vraiment d'un clic de travers et on a une suspension, quoi. Je brosse un tableau un peu noir, mais en fait, je m'aperçois que c'est une de mes missions principales, hein, en ce moment au travail, c'est de débroussailler les problèmes CAF des personnes, quoi, et d'essayer de réouvrir leurs droits.
Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Dale aquí te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me llego a un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Dale aquí te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo mi persona al sol. Me salió un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje.
Écoutez Sarah Ebé, ça s'appelle la bronca, ça veut dire la colère. Donc après tout ça, si vous n'avez pas envie de tout cramer, ben moi je sais plus quoi faire.
Tu peux rester, pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
Vous écoutez la radio d'État sur Radio Campus Clermont 93.3.
Et alors, pour terminer cette émission, Lise, est-ce que tu nous as préparé un petit sujet léger et réjouissant ?
Tout à fait ! Non, je rigole. Je voulais vous parler de la présidente du TAR, qui n'est pas notre présidente à nous, Radio d'État, mais la présidente du tribunal administratif. Elle s'appelle Sylvie Bader-Cosa.
Mais pourquoi tu veux nous parler d'elle ?
C'est mon petit côté antifa. Car oui, le fascisme n'est pas réservé aux jeunes hommes un peu paumés, débordant de Vous avez compris. On a aussi nos Mélanie à nous, à Clermont-Ferrand. Alors au départ, je voulais l'interviewer. C'était un peu un challenge pour moi. Et elle était d'accord. Elle a juste demandé d'attendre fin février.
Et tu n'as pas pu attendre.
Non. Donc vous allez plutôt entendre deux citations d'elle, issues d'un article de La Montagne, lors de sa nomination à Clermont, publié le 3 octobre dernier. J'ai rajouté une petite ambiance sonore. C'est la spécialité ce soir, mais vous allez apprécier, c'est sûr. C'est plus sympa. Et puis surtout, j'ai rencontré Maître Bourg, avocate spécialiste en droit des étrangers. Et pour commencer, je vais peut-être vous demander à votre avis, qu'est-ce que c'est que le tribunal administratif ? À quoi ça sert ?
Vas-y, Cécile, tu serais peut-être plus à même de répondre.
En bonne fonctionnaire de la République, moi je sais que ça sert à contester ce que dit l'administration. Par exemple, dans le droit du travail, si c'est l'État qui t'emploie et qu'il te fait une grosse crasse, bim, avec ton syndicat, tu vas au TA.
Tu vas au TA. Tu dis TA ou tu dis TA ? Tu vas au TA.
Maintenant, je vais dire TA, je pense.
Je pense que TA, c'est mieux. Alors oui, il y a ça, et c'est toutes les administrations. Donc, entre autres, il y a la préfecture. Par exemple, la préfecture, si elle ne répond pas dans les 4 mois, normalement, elle n'a pas le droit. Et du coup, tu peux aller voir le tribunal administratif. Enfin, en fait, à quoi sert le tribunal administratif ? C'est pas très clair, puisqu'il y a polémique.
Nous ne sommes pas là pour réparer toutes les injustices ou dire à l'administration comment elle doit faire.
Alors là, je pose la question,
qui est là pour ça, alors ? Parce que moi, de ma formation d'avocat, de ce que j'ai appris sur le rôle du juge, garant des libertés fondamentales, garant des libertés individuelles, c'est que c'est le dernier rempart face à une injustice, que c'est le dernier rempart lorsqu'une administration dysfonctionne, lorsque la personne est dans l'impasse et qu'elle n'arrive pas à obtenir ses droits. C'est seulement et uniquement le juge en France qui peut lui répondre, remédier à une injustice et donner des injonctions aux administrations. Si ce juge administratif-là n'estime ne pas avoir à le faire, pour moi, à mon sens, aujourd'hui, on n'a plus personne.
Et alors, si on veut parler, pour parler d'injustice, le mieux est encore de donner des exemples. J'en ai un qui est pas mal, c'est Omar, pour qui une pétition circule. On mettra le lien sur le site de la Radio d'État. Mais pour résumer, Omar a un titre de séjour qu'il renouvelle chaque année. Il a travaillé pendant le Covid et faisait partie de ceux qu'on appelait les premiers de cordée. Macron a fait des communications comme quoi les étrangers ayant fait tous ces boulots de merde pendant le Covid pourront être facilités dans leur démarche vers la naturalisation. Cette idée lui a plu, il a donc fait sa demande. La préfecture en a profité pour faire vérifier son extrait d'acte de naissance. La police aux frontières, comme d'hab, pour les papiers guinéens, a dit que c'était un faux. S'ensuit une obligation à quitter le territoire français et un retrait de titre de séjour. Le jackpot, quoi. Il prend un avocat pour un recours au tribunal administratif qui juge en faveur de l'OQTF alors même qu'Omar a un passeport. Alors, vous êtes choqués ?
Oui.
Ouais.
Bah, c'est normal.
J'ai envie de vomir. Oui.
Mais est-ce surprenant ?
Alors oui, en théorie, ça me surprend. Et malheureusement, dans la pratique, non.
Il y a beaucoup d'OQTF.
En pratique, il y a de plus en plus d'OQTF. Et de plus en plus d'OQTF prises dans la précipitation et sans examen de la situation personnelle. Normalement, une obligation de quitter le territoire français, c'est un peu la dernière mesure quand on considère que la personne n'a pas de titre de séjour, n'a pas le droit d'être là, et donc elle doit partir. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est notamment la situation, par exemple l'exemple que vous me donnez, c'est une personne qui a un titre de séjour, qui fait des démarches pour évoluer dans sa situation administrative, et en faisant ces démarches, se retrouve avec un retrait de titre de séjour, et donc une obligation de quitter le territoire français, extrêmement précipitée de ce que vous m'expliquez. Et au final, avec le dernier rempart en France, le juge administratif qui confirme effectivement cette posture-là, je pense que c'est critiquable et je pense que l'avocat de l'intéressé va s'en emparer et faire un recours en appel.
À propos d'avocats, il faut savoir que ces avocats qui suivent des dossiers comme celui-ci ont souvent face à eux des clients qui n'ont pas le droit de travailler. C'est le cas si on reçoit une OQTF, c'est le cas aussi si la préfecture a du retard dans le renouvellement de récépissé. Ce qui arrive assez souvent. Donc je donne un exemple pour les jeunes étrangers, ceux qui sortent de l'ASE. L'instruction de demande de titre de séjour dure en moyenne 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, tous les 3 mois, ils font une demande de renouvellement de récépissé. Et parfois, il y a des loupés. Et pendant les loupés, du coup, ils ne peuvent plus travailler. Bref, les avocats ont face à eux des gens sans revenus et donc dans l'impossibilité de les payer. Normalement, l'aide juridictionnelle permet de payer le travail de l'avocat dans ces cas-là. Sauf qu'il y a un problème de délivrance de cette aide depuis que Sylvie Bader-Cosa est arrivée au TA.
L'aide juridictionnelle, la décision dépend du bureau d'aide juridictionnelle qui est rattaché au tribunal judiciaire. Mais il y a une section pour le tribunal administratif, la section administrative, qui statue sur les demandes à chaque fois que c'est pour une procédure devant le tribunal administratif. Donc c'est un embryon de ce bureau d'aide juridictionnelle détaché sur la section administrative rattachée au tribunal. Nous, ce qu'on constate en tant qu'avocat, depuis le mois de septembre 2022, c'est que sur les demandes d'aide juridictionnelle au tribunal administratif, pour les ressortissants étrangers, on a systématiquement des refus. Le motif du refus, il est lié au fait que la personne n'a pas de titre de séjour. Alors on est dans une impasse parce que les personnes viennent nous voir justement parce qu'ils veulent un titre de séjour. Donc pour faire une procédure pour obtenir ce titre. Et l'aide leur est refusée parce qu'ils ne justifient pas de ce titre de séjour qu'ils veulent obtenir dans le cadre du recours. Donc on tourne en rond et on se retrouve face à une impasse. Il y a une deuxième impasse sur l'aide juridictionnelle, c'est que le tribunal administratif directement peut nous accorder à nous, avocats, à titre provisoire l'aide juridictionnelle dans les recours dits accélérés, dans les recours d'urgence, qui va concerner notamment et principalement les étrangers. Alors là, c'est le juge, en fait, qui, le jour de l'audience, va nous accorder provisoirement cette aide juridictionnelle dans l'attente de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. Et cette décision de juge aujourd'hui, on constate depuis le mois de janvier 2023 que de façon quasi systématique, cette aide est refusée pour les étrangers dans ces procédures d'urgence, notamment tout ce qui est obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire, donc ces décisions où le tribunal, en quelques jours, fixe une date d'audience. Le juge refuse à l'avocat l'aide juridictionnelle provisoire, qui sous-entend que derrière, la décision d'aide juridictionnelle finale sera similaire. Donc là encore, c'est fermer la porte de cette aide à tous les ressortissants étrangers qui, en plus, sont dans une problématique très très urgente.
Pour finir, j'ai demandé à Maître Bourg si tout ça n'était pas un peu contraire aux principes de base du droit français.
C'est-à-dire que pour nous, maintenant, il est compréhensible qu'une personne étrangère se retrouve avec un obstacle auquel nous, on n'aura pas, en tout cas qu'on ne rencontrera pas dans notre vie. Et rien que ça, déjà, pose une véritable difficulté sur le sens aujourd'hui que la société a choisi de donner au traitement et à l'accès de tous au droit. Donc tous les hommes naissent libres et égaux en droit, sauf les étrangers, sur des problématiques de séjour en France. On n'est pas sur une égalité du tout, et on est très très loin de notre constitution et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je pense qu'on s'est perdu là.
Je rajoute que pas de papier, pas de CAF. Si tu renouvelles une carte de séjour, tu perds tes droits aux allocs. En gros, avec des cartes de 1 an, tu n'as jamais droit aux allocs plus de 50% du temps. Tout cela est bien triste, mais ne vous inquiétez pas, car la présidente du tribunal administratif lutte activement pour le bonheur, elle disait à la montagne.
Le premier objectif est interne. Faire en sorte que notre communauté juridictionnelle soit heureuse au travail dans les meilleures conditions possibles.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage.
Une manif contre le chômage.
Oh, ouais. Viens, on va quand même pas se battre pour travailler, non.
Eh bien, cette radio d'État se termine. Alors, nous allons...
Avec bonheur, hein.
Avec bonheur, ouais. On aurait bien aimé que ça dure un peu plus longtemps, les sondes...
On n'a pas le temps, désolé. Les sondes torture. C'était magique. Alors, nous allons remercier d'abord tous les témoins qui ont participé donc, au reportage d'Aurélie et de Thierry sur la CAF. Et puis aussi Eva qui a prêté sa voix à notre Georgia Meloni locale qu'on ne remercie pas donc. Et puis Maître Bourg. Alors nous, on va se donner rendez-vous le 14 mars. Et d'ici là, on fait de gros bisous à JM.
Eh oui,
ouais, JM. Bisous, JM. On le retrouve la prochaine fois.
Voilà. Le 7 pour la grève générale.
Alors on lui fait un petit cadeau, peut-être une petite musique pour lui, non?
Ah oui.
Une petite musique.
Rapido.
Je vais faire ça. Ah, tu voulais dire autre chose?
Ok.
Il y a Manif.
Oui, il y a Manif contre les extrêmes droites, contre les fachos.
Les fachos.
C'est samedi 18. À 15h, place de Jaune, voilà. Et puis, d'ici là, si vous vous ennuyez de la radio d'État, vous pouvez toujours réécouter l'émission et puis les chroniques sur laradiodetat.org.
Et
on vous dit à dans un mois.
Ouais.
Des bisous, à plus.
Bisous.
Ciao. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra. In your sight we is pleasure, boom she pleasure. We'll be right back.
like those men in the queue to be the next. Oh.